Bienvenue à chacun. Alors aujourd'hui, j'avais envie de continuer. C'est vrai qu'on a une petite série sur la force d'aimer. Juste allumer. Voilà. Alors c'est tiré du livre de Martin Luther King. On vous a déjà montré, là, David Rosset, il a parlé, le pasteur, dimanche passé. Et alors je me suis inspirée aussi d'un ou deux messages. Bien-aimé. On est les bien-aimés de Dieu. Et vous êtes aussi les bien-aimés. Chacun, on est aimé de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. L'amour vient de Dieu. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là et méditer. Parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à prendre conscience. L'amour vient de Dieu. Alors Dieu, il est généreux. On a entendu aussi dans nos prières, on l'a déjà vécu, on l'a lu dans la Bible. Alors on peut se dire, mais waouh, il va nous combler de son amour. On va être rempli chaque jour, tellement rempli que ça va déborder. On va aimer les autres. Et puis ça va être magnifique, ça va être merveilleux. Et puis pourtant, ben, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, des fois il y a quand même un peu un décalage entre... ce que Dieu il aimerait me donner de son amour et puis ce que moi je ressens dans mon cœur de son amour. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi finalement, entre ce que Dieu il aimerait nous donner et puis ce qu'on ressent, ben, y a plus ou moins un trou, il y a plus ou moins un espace grand. Alors voilà, peut-être vous avez aussi des réponses à ça, vous avez déjà peut-être réfléchi. Peut-être que vous dites, mais pourquoi finalement, Seigneur, je vis avec ces manques depuis si longtemps, puis je cherche une réponse, puis j'ai déjà reçu un peu, mais pas autant que j'aimerais. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les solutions, mais on va se rappeler que l'amour vient de Dieu. Déjà, ça nous rassure. Et puis ensuite, ben, c'est vrai qu'on n'est pas encore au ciel. Il faut se dire qu'on est quand même encore dans un monde déchu, où il y a de l'égoïsme, où il y a des limites, où on n'est pas aussi rempli qu'on aimerait l'être. Et finalement, les personnes qui nous entourent, la communauté, nos parents, nos amis, ben, chacun il peut nous donner un peu d'amour, notre conjoint, nos enfants, mais on ne reçoit pas autant peut-être qu'on aimerait. Alors on a été finalement façonné, notre perception de l'amour, elle est aussi façonnée par l'expérience qu'on a eue dans nos vies. Mais alors, la question reste ouverte, comment recevoir cet amour? Alors on revient à la source, l'amour vient de Dieu. Mais ça ne répond pas à tout comment, quand même, on va le recevoir, cet amour. Alors moi, j'ai l'impression que quand même Dieu, ben, on peut justement le lui demander. Il a dit, demandez, vous recevrez. Alors on peut aussi, c'est vrai, prendre du temps dans la prière, puis demander, mais Seigneur, ce matin, remplis-moi tout à nouveau de ton amour. Alors il peut le faire d'une manière surnaturelle, tout d'un coup. Il y a des gens qui témoignent, qui partagent, mais oui, j'étais visitée. Les gens, des fois, ils disent dans leur chambre à coucher, je dis, mais moi, je veux croire en toi, mais seulement si tu te montres à moi et tu me parles. Et moi, j'ai entendu aussi des témoignages, et c'est vrai qu'on peut aussi vivre ça. Mais je crois que Dieu aussi nous appelle, en fait, il met sur notre chemin des personnes aussi qui nous aiment. Des personnes, justement, que tout d'un coup, on ne connaissait pas. Par exemple, ben, plein de gens de la communauté ici, vous pouvez peut-être témoigner de dire, mais moi, j'ai été aimée, je me suis sentie aimée, je me suis sentie écoutée, encouragée. Et ça m'a permis d'avancer. J'ai vu que Dieu, il utilise aussi les personnes sur ma route, dans ma vie. Alors c'est vrai qu'on l'a chanté, Dieu nous aime. Et là aussi c'est vrai, on pourrait s'arrêter et se dire, mais waouh, Dieu m'aime. Moi je pourrais dire, mais Dieu aime Jean-Pierre, Dieu aime Daniel, Dieu aime chacun d'entre vous, Corinne, Dieu aime Cédric. Et puis on pourrait continuer comme ça. Puis Dieu, il aime chacun d'entre vous. Vous pouvez mettre votre prénom. Dieu, il aime Odile. Et puis aussi son amoureux. Bienvenue. Puis Dieu, il aime chacun qui est ici ce matin. Puis je me dis, mais des fois, on devrait juste s'arrêter puis se dire, mais posons-nous le matin puis de dire, mais recevons cet amour. Pendant ma journée, je vais vivre plein de choses, je vais rencontrer plein de gens et j'aimerais me rappeler et me laisser aimer comme on l'a chanté, ce regard d'amour de Dieu. Et on pourrait s'arrêter là. Parce que là, c'est déjà toute une étape. Et en même temps, ben Dieu n'aimerait pas qu'on reste que là à recevoir son amour, mais il nous appelle aussi, nous, à nous mettre en marche pour aussi aimer les autres. Alors là, ça devient un peu plus difficile parfois. Ah ouais, ça c'est un peu tôt. Ça c'est pour après. Nous sommes exhortés à nous aimer les uns les autres, à aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Ça c'est d'ailleurs un commandement qui est dit dans Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain, votre voisin, comme vous-même. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà s'aimer. Donc être aimé de Dieu, s'aimer, c'est tout un programme, aimer l'autre. Ben, vous le voyez aussi dans votre quotidien, ben, c'est pas si évident, c'est comme un défi d'aimer son collègue de travail, d'aimer son voisin, d'aimer ses enfants. Il y a des jours tout va bien, puis il y a d'autres jours c'est plus difficile. Aimer, la force d'aimer. C'est pas juste dire à quelqu'un et le regarder dans les yeux, lui dire « je t'aime ». C'est déjà beau, c'est déjà chouette. Mais aimer, ça demande aussi un engagement. Ça veut dire prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, d'apprendre à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de l'écouter, de l'inviter, de peut-être lui faire un cadeau, lui faire plaisir. Alors c'est vrai, quand on est amoureux, on regarde les amoureux, les futurs mariés, là il y en a quelques-uns, bah, c'est peut-être plus facile, on aime passer du temps ensemble, on aime partager, on aime justement faire plaisir, être au téléphone. Mais finalement, aimer, ben, c'est quand même beaucoup plus que des sentiments. Pour que ça dure, l'amour, il faut qu'il y ait plus que des sentiments. Il faut aussi qu'il y ait un choix. Ça veut dire aussi s'engager à aimer. C'est décider d'aimer, ben, même si des fois ça ne va pas, même s'il y a des obstacles, même si on se voit moins souvent, ben, on continue d'aimer. Puis, ben, c'est vrai que j'ai pu réfléchir un petit peu à cette question quand j'étais en Haïti. J'avais envie de partager un peu aussi de ce qu'on a vécu avec vous. Bon, vous montrer pas deux, trois photos, pas trop non plus. Et puis, c'est vrai que comme vous le savez, ben voilà, il y a un mois, tout d'un coup, un matin, on a reçu un message qui nous disait qu'après plus de 3 ans d'attente, on nous proposait une petite fille en adoption. C'était si, 1 an et demi. Alors c'était waouh, presque un cataclysme là. On se réjouissait tellement, mais tout d'un coup, ça devient réel. Alors au début, pour le premier, pour cette année, c'était pas comme ça. On a reçu direct une photo, le dossier par la poste. Là, la dame, elle nous dit, oui, est-ce que je pourrais vous appeler? Je dis, non, mais moi, j'aimerais savoir tout de suite. Après, elle m'envoie des documents un peu sur sa petite histoire, son début de vie, sa santé. Puis j'ai dû encore attendre des heures pour avoir une photo, donc cette photo-là. Voilà, notre petite fille qui est à l'autre bout du monde, en Haïti toujours malheureusement, mais un jour, bientôt, dans quelques mois, on espère qu'elle sera là. Puis c'est vrai, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait que cet enfant qu'on ne connaît pas, alors quand on a vu la photo, c'est vrai que c'est déjà plus facile de s'attacher, mais qu'est-ce qui fait qu'on va aimer cet enfant, qu'on va l'accepter dans notre famille, qu'on va lui donner une part importante? Parce que j'avoue qu'avec Pascal, on s'est posé des questions. On avait quand même encore un peu quelques questions sans réponse en voyant ses informations, son dossier. On avait encore un peu des doutes par rapport aussi à son développement. Mais avec Pascal, on s'est dit, ben non, Seigneur, on a décidé, on décide devant toi, on va aimer cet enfant. On va l'apprendre, on va l'accepter. Parce que ben ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on avait 2 jours, 3 jours pour accepter cet enfant. Ce n'est pas juste vous allez la voir, puis après vous donnez votre avis, évidemment. C'est d'abord, en fait, vous décidez, vous choisissez, et puis vous écrivez une lettre, vous vous engagez par écrit, vous vous envoyez au SPJ à Lausanne, la Société de protection de la jeunesse. Mais voilà, c'est tout finalement un processus de choisir d'aimer. Et puis, ben, quand on l'a vu après, c'est vrai, on était sur place, et on est arrivé le soir, moi je me suis dit, bon, après tout le voyage, on attendra peut-être le matin hein, pour aller la voir, on sera un peu plus reposé. Mais la directrice sur place, elle nous a dit, ça s'appelle la Maison des Anges où elle est, c'est trop mignon. Elle nous a dit, ah ben si vous voulez, vous pouvez déjà aller la voir, elle dort, mais on va la réveiller. Voilà. Et puis on est arrivé devant, dans l'immense dortoir, parce qu'il y a plus de 100 enfants, mais là il y en a au moins 60, des tout petits avec plein de lits partout, partout, partout. Et puis directement, elle a tendu les bras comme ça, quoi. Puis moi, à ce moment, j'étais là, waouh, je me sentais pas si prête que ça tout d'un coup. Mais quand même, après coup, je me suis dit, mais ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, mais elle a choisi déjà de nous accepter. Elle a choisi de s'ouvrir à nous. Elle a choisi, en fait, de nous faire confiance. Je me suis dit, mais elle a pas reçu notre dossier avec l'histoire de toute la famille. Elle a pas vu nos têtes, elle a pas vu nos photos. Puis elle sait pas qui c'est, avec qui elle s'engage, quoi. Donc après coup, je me suis dit, mais merci Seigneur, parce que c'était aussi une réponse à nos prières que ben, elle a fait aussi le choix finalement de nous accepter. Et puis que ce lien d'attachement, en 2 semaines, ben, gentiment déjà, il a pu se créer, même si maintenant on doit encore attendre peut-être 6, 7, 8 mois, peut-être plus, peut-être moins. Ça, on ne sait pas encore. Alors voilà, après, elle a commencé, elle marche presque, même si elle a déjà 1 an et demi. On l'a beaucoup fait marcher, elle nous demandait aussi. Elle marche déjà, toi, tu crois maintenant? Ouais, je pense. Allez. Et puis voilà, après quelques jours, elle a commencé à sourire. Alors c'est vrai que c'était super encourageant de voir cette petite bout de chou, là, commencer à s'ouvrir, sourire. Et puis, ça nous a fait très chaud au cœur. Alors, aimer un enfant inconnu, ben, c'est vrai que c'est un pas de foi. C'est un acte de confiance aussi. De se dire, mais oui, Seigneur, toi, tu vas être avec nous sur tout ce chemin. Puis j'ai discuté avec d'autres mamans qui ont accouché, puis elles m'ont dit, mais tu sais, mais c'est un peu la même chose quand même. Hein. Même si c'est notre enfant, finalement, quand il sort du ventre, ben, on le découvre, on regarde ses yeux, ses mains, ses pieds. Puis, ben, ce processus d'attachement, il doit aussi se faire aussi. Alors moi, je me suis dit, mais si on est capable, finalement, si Dieu nous donne ce don d'être capable d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, ben peut-être on pourrait faire un peu un copier-coller pour d'autres personnes qu'on ne connaît pas autour de nous, pour des adultes. C'est pas évident, mais finalement, pour un enfant, on le fait. Hein. Ils sont trop mignons, les enfants. Mais finalement, on pourrait essayer de se poser des questions. Moi, je me suis posé pas mal de questions. Comment alors trouver la force d'aimer? Comment aimer notre prochain, parce que c'est un prochain, un voisin. Moi, j'ai mis un inconnu, mais des fois, on dit un étranger, parce qu'il est étrange, il est différent de nous, pour différentes raisons. Alors, comment aimer celui qu'on ne connaît pas? Comment aimer aussi, ben, des fois, c'est plus difficile encore quand il y a de l'opposition. Quand des fois, ben, la personne en face de nous, elle n'est pas toujours bienveillante. Elle pourrait avoir une attitude menaçante ou avoir aussi peut-être des préjugés vis-à-vis de nous. Alors, il y a une personne, justement, qui a beaucoup réfléchi à ça. C'est Martin Luther King. Et moi, ça m'a fait aussi un peu cogiter. Je me suis dit, mais comment cet homme, lui, il a pu se lever pour se tenir sur la brèche, se tenir devant pour lutter contre, justement, pour lutter pour défendre les droits des Noirs américains. Lui, il a choisi des actions pacifistes, non violentes, malgré, justement, l'opposition. Et puis, en même temps, bah, c'est pas un surhomme. Hein. C'est un homme comme vous, comme moi, un pasteur, voilà. Mais je me suis dit, mais je sais pas, pour ceux qui ont déjà lu son autobiographie, qui ont vu aussi l'exposition en bas, on peut se dire, mais waouh, quoi, il était tellement déterminé, il avait une foi impressionnante, et il a eu du courage d'aller jusqu'au bout, parce qu'on aurait pu dire, oui, mais une fois que sa famille était menacée, non, quand même, c'était aussi important de faire attention à sa famille. Mais malgré tout, il a continué. Puis moi, c'est vrai, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui a permis d'aller de l'avant, et d'aller de continuer sa lutte? Parce que ben, il le dit dans son livre, très vite, il a reçu des menaces de mort, et au début, des lettres ou des téléphones chez lui. Puis il s'est dit, bon, ben, si je réponds pas, ça va se calmer, c'est un peu des extrémistes, mais quand même, ils vont peut-être pas aller si loin. Et en fait, un soir, en fait, il était au lit, il reçoit un coup de téléphone, et cette fois, c'est une voix en colère qui lui parle, puis qui lui dit, mais qu'avant la semaine prochaine, il va regretter d'être venu habiter à Montgomery. J'avais envie de vous lire un peu justement ce témoignage sur sa réaction. Je raccrochais, mais le sommeil était parti. Bien imaginé. Il me semblait que toutes mes craintes m'étaient revenues d'un coup. J'avais atteint le point de saturation. Je sortis du lit et je commençais à arpenter le plancher. Finalement, j'allais à la cuisine et je fis chauffer du café. J'étais prêt à abandonner. J'essayais de trouver un moyen de disparaître sans avoir l'air d'un lâche. Dans cet état d'épuisement, alors que mon courage était presque entièrement perdu, je décidai de remettre mon problème à Dieu. La tête dans les mains, je m'inclinai sur la table de la cuisine et je priai à haute voix. Ce que je dis à Dieu dans cette nuit-là est encore vivant dans ma mémoire. Je me suis dressée ici pour ce que je crois être juste. Mais maintenant, j'ai peur. Les gens se tournent vers moi pour être guidés. Et si je vais devant eux, sans force et sans courage. Eux aussi chancelleront. Je suis au bout de mes forces. Il ne me reste rien. J'en suis venue au point où seule, je ne puis plus faire face. » Son combat, il aurait pu s'arrêter là. Et à ce moment même, j'eus conscience de la présence divine, comme jamais auparavant. C'était comme si je pouvais entendre la tranquille assurance d'une voix intérieure. Debout pour la justice, debout pour la vérité, Dieu sera toujours à tes côtés. Presque aussitôt, mes craintes commencèrent à me quitter. Mon incertitude disparut. J'étais prêt à tout affronter. La situation extérieure n'avait pas changé, mais Dieu m'avait donné le calme intérieur. 3 nuits plus tard, ma maison sauta. Cela peut paraître étrange, mais je reçus calmement cette nouvelle. Mon expérience avec Dieu m'avait rendu courage et confiance. Je sais maintenant que Dieu peut nous donner les ressources intérieures pour faire face aux tempêtes et aux problèmes de la vie. Que cette affirmation soit notre clameur retentissante. Elle nous donnera le courage d'affronter les incertitudes à l'avenir. Elle donnera à nos pieds fatigués de nouvelles forces pour reprendre notre marche en avant vers la cité de liberté. Si des nuages bas assombrissent nos jours, ou si nos nuits deviennent plus noires qu'un millier de nuits, souvenons-nous. Souvenons-nous qu'il y a dans l'univers une puissance grande et bienveillante dont le nom est Dieu. Il peut ouvrir la voie lorsque la route fait défaut et changer les sombres aujourd'hui en demain lumineux. Et waouh, je me suis dit, mais ça n'a pas toujours été facile, mais finalement, en se tournant vers Dieu, il a reçu une force impressionnante. Et justement, il a écrit une prédication à ce sujet où il donne 3 clés, 3 antidotes pour lutter contre la peur. Premièrement, il dit, pour faire face à nos peurs, il faut oser les regarder en face, oser les nommer, les examiner et pouvoir aussi, comme il l'a fait, les dire à Dieu. Oser être vrai avec Dieu et lui dire même, mais Dieu, j'ai peur. J'ai peur de quoi ? Et de dire de quoi on a peur. Et lui, il ajoute, en amenant nos peurs à l'avant-plan de la conscience, nous pouvons constater qu'elles sont plus imaginaires que réelles. Souvent, dans nos peurs, on exagère un bout. Puis quand on en parle avec quelqu'un ou à Dieu, tout d'un coup, ça fait fou. On dit, ah oui, on a encore peur, mais quand même moins qu'avant. Deuxièmement, il dit, pour maîtriser nos peurs, il y a une des plus grandes vertus, c'est le courage. Le courage, pour lui, c'est la capacité justement de surmonter la peur. C'est aussi la résolution, la décision intérieure d'aller de l'avant malgré les obstacles et les situations qui nous effraient. Et c'est vrai que j'avais apporté une fois un enseignement sur l'encouragement, puis finalement le courage, ben, c'est vrai, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette force d'aller de l'avant malgré ce qu'on peut traverser. Alors, je vais juste accélérer un peu. Pop, pop, pop. Voilà. Et lui, il nous donne 2 images extraordinaires. Je vous laisse aussi les lire, mais je vais les lire parce que ça m'a tellement touchée. Il dit, pour lutter contre les forces qui menacent nos vies, comme nos peurs, nous devons développer une volonté créatrice qui nous rend capable de tailler une pierre d'espérance dans une montagne de désespoir. Quand on voit une énorme montagne, on se dit, ça, c'est impossible à changer dans la société. Et lui, il dit, non, on peut tailler une pierre d'espérance. Moi, je dis là, waouh. Arriver à voir autre chose que juste l'impossibilité, je crois que c'est Dieu. Et l'autre image, il nous dit, nous devons sans arrêt construire des digues de courage pour repousser les vagues de la peur. La peur, elle vient, et malheureusement, elle continue d'arriver, et c'est aussi à nous d'avoir ce courage de dire, stop, moi, je ne veux plus entendre ce message, je ne veux plus entendre ces peurs. Alors, c'est vrai que rester avec un cœur confiant, et lutter contre les messages de peur, parce qu'elles peuvent venir de l'extérieur, des fois dans les journaux, les gens autour de nous, tout ce qu'on entend, ça peut être générer de la peur, des fois des films, mais ça peut être aussi des peurs intérieures, qu'on a peur de différentes choses dans nos pensées, elles sont là aussi. Alors c'est vrai que c'est quand même un combat, d'oser justement les nommer, d'oser les voir en face. Mais quelque part, il dit ça suffit pas. Et lui, il propose encore un troisième élément qui va nous aider à vaincre la peur. Alors je reviens, il dit la peur, elle est chassée par l'amour. La peur, l'amour, je ne sais pas si forcément on aurait fait un lien entre les deux, et pourtant, dans 1 Jean, je vous ai lu tout à l'heure, il y a un verset un peu plus loin qui dit justement, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait chasse la peur. Quand on entend ce témoignage qu'il a dit, on se dit, mais vraiment, c'est ce qu'il a vécu. Je ne sais pas si vous avez déjà pu vivre ça à un autre degré, d'une autre manière, de sentir que des fois, il y a des choses qui nous font peur, que ce soit au niveau professionnel, dans nos familles ou différents domaines. L'amour de Dieu peut chasser la crainte. Et puis finalement, si on réfléchit aussi dans la Bible, ben, c'est ce qui a permis à Jésus aussi, cet amour du Père, d'aller jusqu'à la croix pour nous. C'est ce qui a permis aussi à l'apôtre Paul de supporter toutes ces persécutions. Un tel amour, il peut affronter le mal et continuer. Mais en même temps, on se dit, mais comment ça fonctionne, cette tension entre l'amour, la peur? Et puis, justement, Martin Luther, dans son livre, il dit, mais la haine s'enracine dans la peur. Ce duo haine-peur, on pourrait rajouter rejet, mépris, on pourrait rajouter pas mal d'autres choses ensemble. Eux, ils se mettent ensemble, mais pour lutter contre ça, la seule arme, c'est l'amour. Et lui, il a réfléchi à son époque, mais finalement, on peut aussi transposer chez nous, c'est un peu différent, on n'est plus, heureusement, on n'a plus à lutter pour, heureusement, s'asseoir un blanc à côté d'un noir, un noir à côté d'un blanc, heureusement qu'on n'en est plus là, même si, ben, voilà, il y a encore des combats. Il dit, la ségrégation raciale, à l'époque, elle était soutenue par les craintes irrationnelles. Les blancs, ils avaient tellement de craintes. Ils avaient aussi la peur de perdre des privilèges sociaux, économiques. Ils avaient la peur de l'altération de leur statut social. Et le mariage interracial, dans les États du Sud, pour plein de gens, ce n'était pas possible d'imaginer ça. Alors, c'est tous les Blancs, à l'époque, qui étaient dans cette région du Sud, ils luttaient contre, finalement, eux, contre des peurs. Contre des peurs de voir les Noirs avoir les mêmes droits qu'eux. Aujourd'hui, on se dit, mais ça n'a pas de sens, quand même. Comment on a pu vivre ça? Et pourtant, alors il dit, mais certains blancs, ils faisaient un peu comme les autruches, mettaient la tête sous la terre comme ça, puis ils essayaient de ne pas voir ce problème interracial. D'autres, ils espéraient lutter avec des manœuvres légales, avec des lois. Voilà, ici c'est comme ça, ici dans ce restaurant c'est blanc, ici c'est noir, puis chacun chez soi, et ils croyaient que ça allait résoudre quelque chose. Je ne crois pas. Et puis d'autres encore, ils espéraient perdre leur peur en se livrant à des actes de violence gratuits. Et lui, il dit, mais finalement, toutes ces solutions, c'est des tentatives, mais ça n'amène pas un dialogue, ça n'amène pas une solution pour aller plus loin. Puis, en réalisant, finalement, lui, il n'a pas décortiqué que ses peurs, il a décortiqué les peurs de l'autre, finalement, de l'autre en face, du blanc qui était, pour certains, ben, des adversaires. Il dit, mais, il conclut, mais ni le refoulement, c'est-à-dire mettre la tête sous le sable, ni la résistance massive, d'essayer d'utiliser des lois, ni la violence agressive ne chasseront la peur de l'intégration. Seul l'amour et la bonne volonté peuvent le faire. Et nous aussi, aujourd'hui, ben voilà, il y a d'autres défis au niveau européen, au niveau mondial, il y a plein de gens qui arrivent chez nous, puis ben on peut essayer plein de choses, mais il y en a plein qui ne vont pas réussir. Mais si on décide, nous, d'ouvrir notre cœur et d'aimer, et eh bien là, il y a un chemin possible. L'amour, c'est l'arme qui est la plus puissante, en fait, pour mettre à terre la haine, le mépris et la peur. Et chacun d'entre nous, on est aussi appelé, justement, à faire face à des peurs qui nous envahissent si facilement. Et la bonne nouvelle, c'est vrai, comme on le sait, ben, c'est que Jésus, lui, il vient pour nous libérer. Il y a d'ailleurs des cours qui s'appellent « Vive libéré » que Guy Gentilson aussi organise. Ça peut être un chemin pour nous aussi. Et puis en étant plus libre, ben on pourra aussi plus facilement entrer dans les projets de Dieu pour nous. Résister à la peur, chasser la peur de nos cœurs pour pouvoir aimer. Alors moi, j'aimerais vous encourager justement, ça c'est les images. Osons nommer nos peurs. Osons prendre le temps puis de dire, mais en fait, j'ai peur de quoi ? Je ne sais pas si vous réfléchissez dans votre tête, pour vous, entre vous et Dieu. Est-ce que j'ai peur du regard des autres ? Peur de perdre mon job ? Peur de tomber malade ? Peur de témoigner ? Peur de parler en public ? Peur des étrangers ? Peur de je ne sais pas. Enfin, chacun, on a peut-être nos peurs, petites ou grandes. Bon, si c'est juste la peur des araignées, ce n'est pas très grave, hein ? Mais ça peut être des peurs beaucoup plus profondes. Et puis, osons en parler à Dieu. Et peut-être qu'à un moment donné, on va être aussi comme Martin Luther King de dire à Dieu, mais moi j'ai peur, puis j'arrive plus à aller plus loin. Puis reconnaître qu'on a nos limites. Ensuite, comme il nous exhorte, demandons aussi à Dieu le courage pour aller plus loin, pour traverser les épreuves, pour continuer, pour persévérer. Et Dieu, il est généreux pour voir cette pierre d'espérance dans une montagne de désespoir. Et aussi, rappelons-nous que, comme je l'ai déjà dit, l'amour vient de Dieu. Et on a un Dieu tellement bon et généreux qui nous aime. Donc, pourquoi ne pas aussi prendre ce temps-là, de lui demander, lui, de nous remplir de cet amour qui chasse la crainte. Et ce matin, j'avais envie de vous proposer, justement, de prendre un temps à la fin du culte, pour ceux qui ont à cœur d'être visité tout à nouveau par l'amour de Dieu, de faire un appel pour ceux qui auraient envie qu'on prie pour eux, de venir et puis avec Jean-Paul et d'autres équipiers de prière qui sont là, on aurait à cœur envie aussi de prier pour vous. Que ce soit que vous ayez envie de recevoir du courage, que ce soit que vous ayez besoin de l'amour de Dieu, on aimerait se mettre aussi à votre disposition et demander avec vous à Dieu que lui vous remplisse de son amour. Et on peut aussi demander ensemble, en tant que communauté, de demander à Dieu qui nous aide à poser justement un regard d'amour sur notre prochain, à avoir ce regard d'amour sur notre voisin, sur celui qu'on ne connaît pas encore, ou sur celui justement qui nous fait peur, pour avoir la force de l'aimer. Martin Luther King, lui, il a partagé son vécu, son histoire, et moi j'espère et je souhaite pour nous que ça nous encourage justement à aller aussi de l'avant, dans ce sens, pour aimer. Et lui, il finit chacun de ses prédications, il dit « We shall overcome, nous vaincrons ». Alors moi, j'aimerais aussi dire comme lui, « Oui, nous vaincrons la peur par l'amour ». Soyez bénis.